La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la Terre a-t-elle été toujours aussi bleue qu'une orange ? La Terre est bleue comme une orange, jamais une erreur, les mots ne mentent pas, ils ne vous donnent plus à chanter, autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours, elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires, et quel vêtement d'indulgence à la croire toute nue. Vous avez reconnu, chères auditrices et chers auditeurs, un extrait du poème de Paul Éluard, écrit en 1929 et intitulé « La Terre est bleue ». Il existe d'innombrables interprétations de ce poème surréaliste, sans qu'on puisse dire que l'une d'elles soit vraiment la bonne, l'unique bonne. « La Terre est bleue comme une orange ». Cette phrase peut par exemple se comprendre, en tout cas un peu, en se rappelant que Gala, la femme qu'Éluard aime passionnément mais est en train de perdre à cause de l'ardente concurrence d'un certain Salvador Dali, eh bien Gala a les yeux bleus et une chevelure orange. Mais bon, ce n'est qu'une interprétation. On peut aussi lire cette phrase comme la conséquence d'une sorte de syllogisme mal fichu, et même si mal fichu que ce n'est pas du tout un syllogisme, du style « la terre est bleue, la terre est ronde, l'orange est ronde, donc l'orange est bleue ». Mais je me demande si on ne pourrait pas aussi interpréter cette phrase d'une façon que Paul Éluard ne pouvait pas connaître et qu'on ne trouve pas dans les manuels de littérature que j'ai pu consulter. Cette nouvelle exégèse s'appuie sur des découvertes récentes faites par les chercheurs qui s'intéressent au climat passé de la Terre et remontent dans le temps jusqu'à des périodes très anciennes. Ils savent désormais que non seulement la Terre en a vu de toutes les couleurs, mais aussi qu'elle est passée par toutes les couleurs, sinon de l'arc-en-ciel tout entier, du moins d'un gros bout. Que suis-je en train de vous dire là? Que la Terre n'a pas toujours eu l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui et que nous renvoient les belles images prises depuis des satellites. Il lui est arrivé d'être orangé, et même tout à fait orange, comme Titan, le plus gros satellite de Saturne, qui a une atmosphère riche en éthane et en méthane, ou bien blanchâtre, comme Encélade, un autre satellite de Saturne, qui a une surface froide et complètement gelée, ou encore comme Europe, un satellite de Jupiter. Mais comment expliquer ces changements de couleur de la Terre? Que lui est-il donc arrivé au cours des âges qui puisse modifier son apparence et sa teinte? On sait qu'au cours de son histoire, notre planète a connu des conditions climatiques très diverses. Mais quel rôle le climat a-t-il joué dans cette affaire? Pour le savoir, j'ai invité Gilles Rammstein. Bonjour Gilles Rammstein.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, installé à Saclay, et vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « Voyage à travers les climats de la Terre ». Alors, avant de parler de notre sujet, parlons un petit peu de vous, si vous le voulez bien. Le chercheur que vous êtes, j'ai un peu lu votre biographie, est quand même un drôle de zigoto. Au départ, vous étiez physicien des accélérateurs. Vous tentiez, par divers moyens expérimentaux, de donner beaucoup d'énergie à coups de champs électriques intenses, à des ions ou bien à des électrons. Et puis, soudainement, vous avez changé de sujet de recherche. Vous vous êtes reconverti en physique du climat. Vous êtes, après avoir été physicien des accélérateurs, vous êtes devenu physicien du climat. Comment cela s'est-il passé? Est-ce que c'est une vocation tardive? Est-ce qu'il y a des événements qui ont déclenché cette bifurcation?
Oui, je peux expliquer ça. Dans la carrière d'un chercheur, il y a une part de hasard. Et c'est jamais complètement du hasard. Il y a toujours le terreau pour ça. Mais je travaillais en effet en physique des accélérateurs. J'avais d'abord travaillé sur vraiment la construction d'un accélérateur supraconducteur, c'est-à-dire qui marche à des températures très basses. Et puis après, j'étais parti plutôt dans un groupe de théorie des accélérateurs. Et là, en fait, je passais ma vie à calculer des instabilités dans des structures qui verraient peut-être jamais le jour. Ce qui fait que quand j'écrivais un article, peut-être une dizaine de personnes pouvaient comprendre l'intérêt de ce que je faisais. Et en fait, ce point-là me taraudait, quoi. Je me disais, mais tout ça pour ça, est-ce que je ferais pas mieux de travailler sur des domaines qui sont plus ouverts? Parce que je pense que ça correspondait pas exactement à ce que je souhaitais. Et c'est là, dans ce terreau-là, que le hasard arrive, c'est-à-dire que le CEA décide de faire un groupe de modélisation du climat. Alors moi, je travaillais sur les équations de Maxwell, sur de la physique assez dure, et ça m'a complètement changé. J'ai décidé de le faire. J'ai rencontré donc Jean Jouzel. On a discuté, ce qui faisait m'intéressait, et je suis passé des équations de Maxwell à des équations de physique des fluides, hein, de Navier-Stokes. Alors, c'est quoi
Navier-Stokes?
Ouais, Navier-Stokes.
C'est alors, quoi les équations de Navier-Stokes?
Bah, c'est les équations de mécanique des fluides. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que la seule chose commune entre ce que je faisais avant et ce que j'ai fait après, c'est le fait que pour la physique des accélérateurs comme pour la physique du climat, on utilise en fait de gros codes de calcul sur des grosses machines. C'est pas du tout le même genre de physique, donc il a fallu que je réapprenne. Mais ça, c'était quand même le point commun, utiliser des grosses machines centralisées dans lesquelles le CEA avait une assez forte expertise.
Donc le point commun, c'est finalement la simulation, le calcul à partir d'équations qui modélisent, voilà, en l'occurrence, l'évolution, voilà, du climat de la Terre.
Exactement. Le point commun, c'est celui-là. Exactement. C'est celui-là. C'est la simulation, c'est la modélisation, c'est le désir de comprendre et de quantifier. Et la différence, c'est que au lieu d'avoir une ou deux personnes qui pouvaient comprendre, je discutais avec des gens de différents types de données qui pouvaient me dire si je me trompais ou pas dans mes simulations climatiques, par exemple, du passé. Et ça m'ouvrait sur beaucoup plus de monde. Et je pense que ça comblait ce manque que j'avais en travaillant en physique des accélérateurs.
Alors Gilles Ramatay, j'ai dit dans l'introduction que nous allions parler essentiellement de la Terre, de son climat passé, mais je voudrais commencer en vous posant une question sur l'étoile de la Terre, c'est-à-dire le Soleil. On sait que lorsqu'il était plus jeune, le Soleil était moins puissant. Et une autre façon de dire la même chose, c'est de dire que sa luminosité augmente au cours du temps. En fait, elle augmente de 7% par milliard d'années. Ce qui veut dire qu'il y a 2 milliards d'années, il envoyait beaucoup moins de rayonnement sur la Terre. Or, nous savons que l'activité du Soleil, l'intensité de cette activité est un paramètre clé du climat terrestre. Dois-je déduire de ce que je viens de dire, à savoir que le Soleil jeune était moins puissant qu'aujourd'hui, qu'à l'époque, la Terre était intégralement couverte de glace?
Ben, c'est ce qu'on peut penser, hein. Mais toutes les données dont on dispose prouvent le contraire. Donc c'est tout à fait exact. En général, quand on va voir un coucher de soleil avec sa douce, on regarde le spectacle et on pense pas que le soleil c'est juste un réacteur nucléaire. Un réacteur nucléaire qui brûle son hydrogène, qui brûlera son hélium à la fin. Et donc, et il est dans sa phase qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire comme vous l'avez bien dit, il augmente de 7% par milliard d'années. Donc le soleil aujourd'hui, tout fringant qu'il est, il était beaucoup plus blême et blafard il y a 4,6 milliards d'années. Il était 30%. Moins puissant qu'aujourd'hui. Et alors un calcul de coin de table, mais un calcul moins de coin de table aussi, montre que si vous baissez la luminosité du Soleil de 30%, alors normalement, toute chose égale par ailleurs, la Terre aurait dû être une grosse boule de neige, comme Encelade par exemple, qui est un satellite d'une planète géante. Mais en fait, on sait très bien qu'il n'en a rien été. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ? Puisqu'on a plein de données qui montrent qu'en fait, la Terre, au départ, le premier milliard d'années, elle était toute bleue, il n'y avait pas de continent, les continents sont arrivés vers 3 milliards d'années. Et donc pourquoi cette planète presque toute bleue, à part quelques petits archipels, était en fait assez chaude, à 50 degrés, alors qu'elle aurait dû... Bon, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. C'est ça la modélisation des climats, c'est une enquête perpétuelle. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait que la Terre ne s'est pas englacée, alors que physiquement, elle aurait dû s'englacer? Ben, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait bonne raison de penser que la composition atmosphérique de la Terre était différente et qu'il y avait sur cette Terre-là beaucoup plus de gaz à effet de serre, en particulier le CO2 et le méthane. Et ça change un peu notre façon de voir, parce qu'aujourd'hui, on est en train de bouleverser le climat de la Terre. J'espère qu'on aura le temps d'en parler, bien sûr. Mais pendant le premier milliard d'années du climat terrestre, les gaz à effet de serre ont joué le rôle d'une couverture chauffante. Et ils ont permis à la surface terrestre de rester assez chaude Alors que notre Soleil, hein, qui nous fournit 99,9% de notre énergie, hein, était beaucoup plus blême et n'était pas en mesure de le faire.
Ça veut dire qu'il y a eu une époque où la Terre était une sorte d'aquaplanète, planète recouverte d'eau intégralement.
Oui, les continents ont commencé à s'accréter de façon, on peut parler de continents, autour de 3 milliards d'années. Hein, et les océans sont assez vite apparus, ils ont rapidement couvert de bleu notre petite planète, hein, autour de 4 milliards d'années, donc pendant au moins, même avant, donc au moins pendant près 1 à 1,5 milliard d'années, la planète, c'est de l'eau, que de l'eau et des archipels volcaniques.
Alors vous consacrez, chez Rammstein, dans votre livre, un long chapitre à la question de l'origine de l'eau. Comment est-ce que cette eau est arrivée sur Terre ?
Dans l'histoire de la Terre, il y a deux bombardements, un bombardement primitif et un bombardement plus tardif. Le bombardement primitif, il est lié au fait que des milliers d'astéroïdes et de comètes sont tombés sur la Terre et ont apporté de l'eau. Et comment on sait que cette eau-là, elle n'est pas purement interne à la Terre ? Parce qu'en fait, quand la Terre s'est créée, elle était très chaude. Il n'a pas pu y avoir d'eau sous forme liquide, elle a été entièrement vaporisée. Et donc l'eau nous a été apportée. En plus, on a d'autres raisons de penser ça qui sont très fortes, à cause du fait que on peut savoir quelle est la distribution de l'oxygène, des isotopes de l'oxygène dans l'eau. Et donc, on peut savoir que l'eau est externe au système. L'eau terrestre est arrivée par l'extérieur du système terrestre. Donc ça, on en a la certitude, et c'est arrivé très rapidement. Ensuite, il y a comme un mur pour la climatologie, c'est-à-dire que on pourrait se demander, bon d'accord, mais qu'est-ce que vous savez du climat et jusqu'à quand ? Donc on sait beaucoup de choses sur le climat grâce à des données qui sont des données isotopiques. Ça, je pourrais revenir dessus. Et ça, on le sait jusqu'à un espèce de mur qui se situe autour de 3,8 milliards d'années, où il y a de nouveau un bombardement, qui est le bombardement tardif, et qui, lui, va un peu complètement brouiller les pistes et va nous faire perdre un peu notre fil climatique.
Vous voulez dire que le système solaire a joué au billard ?
Voilà, c'est une sorte, en fait, le bombardement a été lié essentiellement au fait qu'il y a une inversion dans les planètes les plus éloignées, que ces planètes ont touché la ceinture de Kuiper, et là c'est un peu exactement comme au flipper, c'est-à-dire que il y a plein d'astéroïdes qui ont été déroutés et qui ont été amenés dans le système interne, c'est-à-dire les planètes internes, les planètes comme Mars, Vénus, la Terre, les planètes telluriques, qui ont été bombardées pendant assez longtemps d'astéroïdes, et c'est ça qui a modifié considérablement la surface terrestre.
Donc ça a éliminé tout ce qui existait avant, une sorte de reset.
Voilà, c'est ça.
C'est ce bombardement tardif, comme vous l'appelez, qui a créé les cratères qu'on voit à la surface de la Lune.
Voilà, exactement. C'est une trace tout à fait visible des cratères.
Alors,
Terre, pourquoi on ne le voit pas ? Parce que la Terre est une planète vivante avec une tectonique, et que d'une part, il y avait très peu de continents, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'autre part, même ces roches-là, elles ont été bombardées, et donc on a beaucoup de mal à sortir un signal climatique clair de la période qu'on appelle l'AD1, qui est la période entre 4,6 et 3,8 milliards d'années.
À ce propos, Gilles Rammstein, vous écrivez dans votre livre cette phrase « Une conséquence de ce bombardement tardif et qu'il a effacé toute possibilité d'enquêter sur ce qui s'est passé avant 3,8 milliards, et en particulier de connaître le climat. Ainsi, la période de 800 millions d'années qui sépare la mise en place des océans et le bombardement tardif reste inaccessible. »
C'est pas complètement vrai, hein, parce que...
C'est vous qui avez écrit.
Oui. C'est-à-dire que on perd le fil, ça brouille les cartes. Mais il y a toujours, les scientifiques trouvent toujours des moyens d'avoir quand même quelques informations extrêmement fragmentaires. Mais disons que dès que vous sortez de 100 000 ans, plus que 100 000 ans, vous avez déjà beaucoup, beaucoup moins d'informations. Dès que vous sortez du Crétacé...
Qu'est-ce que ça veut dire sortir de 100 000 ans ?
C'est-à-dire de cette zone de temps, si on se considère qu'aujourd'hui on est au temps zéro, vous avez énormément de données, d'indices pour les derniers 100 000 ans. Ne serait-ce qu'une chose extraordinaire, vous avez à la fois au Groenland et en Antarctique ça va jusqu'à 800 000 ans, vous avez la possibilité de connaître, ce qui est absolument rare dans l'histoire de la Terre, la composition de l'air grâce aux bulles.
En fonction du temps.
Voilà, et dès qu'on sort de ça, de ces 800 000 ans, eh ben, on n'a plus de connaissance directe de la composition atmosphérique et du CO2. On a des indices, mais qui sont extrêmement compliqués et qui sont très indirects.
Est-ce qu'on peut dire que ça se passe un peu comme ce qui se passe en astrophysique, dans les 400 000 premières années après le Big Bang, la densité de particules chargées dans l'univers est tellement grande que la lumière ne peut pas se propager librement, de sorte que quand on fait de l'astrophysique en recueillant de la lumière qui vient des objets lumineux, eh bien on peut voir tout le passé, sauf cette période de 400 000 ans qui sépare le Big Bang de la libération de cette lumière quand la densité de matière permet la formation des atomes, parce que la température s'est baissée, mais il y a une sorte de mur.
Ah oui, mais c'est sûr. Par exemple, il y a plusieurs horizons dans la climatologie. Il y a cet horizon des 800 000 ans, et ça, c'est un horizon en dur, parce qu'on n'a pas de calottes de glace qui nous permettront de remonter tellement plus. Donc on n'aura jamais la composition en termes de CO2 direct via les bulles. Donc ça, c'est un premier horizon. Puis un deuxième horizon qui est fondamental, c'est l'explosion cambrienne. Parce que ça fait 540 millions
d'années. Cambrienne ?
Oui.
C'est quoi ?
Parce que ça, c'est l'explosion de la vie et le fait qu'il y a des fossiles. Et donc, on a accès aux fossiles. Et donc, ça, c'est d'une richesse du point de vue climat qui est très importante. Avant 540 millions d'années, on n'a pas de fossiles. Donc, il y a des horizons comme ça dans la vie qui correspondent aussi forcément à des horizons sur notre connaissance du climat qui sont forcément liés. Et donc, on a très peu de connaissances de reconstruction climatique, évidemment, à partir de fossiles avant 540 millions d'années. Donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de nos bases, qu'on remonte vers l'histoire originelle de la Terre, ben, on perd des capacités de connaissances. Et à la fin, il reste plus que quelques indices ténus. Alors, comment on fait? Comment on se sert de ces indices ténus? Eh ben, en fait, 4 milliards d'années, c'est long. 100 000 ans, c'est court. Sur 100 000 ans, on peut décrire beaucoup de choses aujourd'hui. Sur 4 milliards d'années, on a une vision très pointilliste de ces 4 milliards d'années.
Je vais vous soumettre à un défi qui est de raconter ces 4 milliards d'années en moins d'une heure. Est-ce qu'on pourrait commencer par, disons, le début de la connaissance que nous avons de l'histoire, c'est-à-dire les 3,8 milliards d'années que vous venez d'évoquer? Il y a un bombardement intense sur la Terre. À l'époque, il n'y a pas de continent. Ils sont arrivés quand, les continents? Quand est-ce qu'ils se sont formés?
Alors, ils sont arrivés autour de 3 milliards d'années.
Et comment est-ce qu'on peut le savoir, ça?
Bah parce qu'on dispose, si vous voulez, les roches, les vieilles roches, ce qu'on appelle les cratons, ils dérivent sur la surface du globe. Ça, c'est la tectonique des plaques depuis très très longtemps. Donc on a des très vieux cratons. Les plus vieux cratons qu'on ait sont à peu près de l'ordre de ça, entre 3, 5 et 3 milliards d'années, les plus vieux. Donc on sait qu'avant, on n'avait pas beaucoup de d'accrétion continentale. Il y a d'autres raisons.
Et donc la Terre, à cette époque-là, a déjà de l'eau à sa surface, qui la recouvre intégralement.
Bien sûr, bien sûr.
Ensuite.
Alors, en fait, il faut voir que la Terre, si vous aviez voulu la voir toute nue, comme un peu dans le poème d'Éluard dont vous parliez au début,
Je crois qu'il parlait plutôt de sa femme.
Oui. Mais sa femme, c'est Gala, mais la Terre, c'est Gaïa, faut pas l'oublier, c'est très proche. Enfin, je pensais que vous aviez choisi ça pour ça. Et en fait, la Terre, elle se revêt très vite d'une belle robe bleue, très vite, après quelques centaines de milliers d'années. Ça y est, c'est fait, la Terre est bleue, elle est plate, pas brune. Il va falloir attendre...
De l'eau liquide.
De l'eau liquide. Il va falloir attendre, pour voir le brunissement de la Terre, il va falloir attendre que les continents se mettent en place, que la tectonique se mette en place, comme on l'a dit. Ça, c'est à peu près il y a 3 milliards d'années. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant tout ce temps-là, on a été protégé par des gaz à effet de serre. Pourquoi il pouvait y avoir beaucoup de CO2?
On vous dit « mais on n'était pas là ».
On n'était pas là.
Donc le « on » dont vous parlez, c'est qui?
On a été protégé au sens... Oui, c'est une très bonne question. Pendant tout ce temps-là, la Terre est restée à des températures tout à fait chaudes à cause des gaz à effet de serre. Alors je veux quand même expliquer pourquoi les gaz à effet de serre pouvaient rester dans l'atmosphère de façon beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui. Alors d'abord, faut savoir que le principal producteur de CO2, aujourd'hui, c'est l'homme. Et de loin, de très très loin. Mais à l'échelle géologique, le principal pourvoyeur de CO2, ce sont les volcans. Les volcans émettent du CO2 dans l'atmosphère avec un rythme tout à fait continu. Ce CO2, aujourd'hui, il réagit avec l'atmosphère et puis il est évacué de l'atmosphère. Il est évacué et il finit au fond des océans. Alors comment ça se passe? Donc, la source, c'est donc le volcanisme, Et le puits, qu'est-ce que c'est le puits géologique du CO2? Ça, c'est des choses qui sont très peu connues. C'est en fait l'érosion silicatée. Les gouttes d'eau se chargent de CO2, viennent sur le continent, érodent des silicates, et dans cette réaction-là, on pompe un CO2 de l'atmosphère et on l'emmène au fond des océans. Pas de continent, pas d'érosion silicatée. Si vous voulez, il y avait une source qui était le volcanisme, qui était là, le premier milliard d'années, mais pas de puits. Le puits de CO2, qui est l'érosion silicatée, ne pouvait pas se faire pour une raison extrêmement simple, il n'y avait pas de continent.
Et donc il faut les continents pour que le CO2 soit massivement présent.
Ah, non.
Si, c'est l'inverse.
Non, c'est l'inverse. Quand les continents vont se mettre en place, alors là, vous allez, et on observe en effet une baisse du CO2. Quand les continents vont se mettre en place comme aujourd'hui, eh bien, comme ils sont aujourd'hui, et que la Terre est deux tiers bleue, un tiers brune, eh bien, vous arrivez à des teneurs en CO2 bien plus faibles à cause de l'ouverture de ce puits, de ce pompage de CO2 par l'érosion silicatée. Mais avant les continents, il n'y avait pas ça. Alors, on pense aussi qu'il y avait peut-être du méthane. Alors, le méthane, c'est plus compliqué, hein. Le méthane, qui pouvait aider le CO2 à maintenir une température chaude avec un soleil jeune. Le méthane, il y a deux raisons pour lesquelles il pouvait être présent massivement. La première, c'est que vous savez que le méthane, aujourd'hui, dans l'atmosphère terrestre actuelle, il dure 10 ans. Donc c'est une étincelle, le méthane. C'est vraiment la durée de vie du méthane aujourd'hui, c'est extrêmement faible. Il se transforme en CO2. Le méthane, dans une atmosphère sans oxygène, puisque l'oxygène n'est arrivé tant l'atmosphère terrestre, qu'il y a 2 milliards d'années seulement. Donc, dans la Terre jeune, on avait un soleil jeune, on avait beaucoup de CO2 et on avait potentiellement aussi pas mal de méthane, parce qu'il n'y avait pas de quoi oxyder le méthane dans l'atmosphère.
Il n'y avait pas d'oxygène, quoi.
Voilà. Donc, on avait une source très forte de méthane. On n'avait pas de puits de méthane. Mais quelle source de méthane? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Titan. Titan, c'est une planète dans laquelle il y a une très belle dynamique atmosphérique, avec de l'éthane, du méthane. Mais Titan, c'est des conditions très très différentes de la Terre. Sur Terre, le méthane ne peut être que biologique. On ne peut pas faire de méthane comme sur Titan. Alors le méthane biologique, c'est difficile à penser, mais un prof qui s'appelle Casting, qui travaille à Penn State University, a émis l'hypothèse que avant que le monde soit oxyque et que ce soit les cyanobactéries qui gagnent...
Oxyque, ça veut dire qui coupe
l'oxygène. Ouais. Eh bien, dans un monde anoxique, les êtres vivants, si vous voulez, qui pullulaient, c'était plutôt les archéméthanogènes. Et les archéméthanogènes, ce ne sont pas des bactéries, c'est une autre branche, une des trois branches sur lesquelles on s'est construit. Mais cette branche-là possède une sous-branche qu'on appelle les archéméthanogènes qui produisent du méthane et qui a pu le faire dès 3,5 milliards d'années. Donc on a à la fois dans ces temps anciens la possibilité de produire du CO2 et du méthane sans que les puits soient déjà mis en place. Et c'est ça qui peut potentiellement aider à protéger d'un soleil jeune.
Donc c'est ça qui a fait qu'on a échappé à une planète complètement glacée.
Voilà. Et au début, Carl Sagan, qui était un très grand astrophysicien, avait proposé l'ammoniac, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Mais ce qu'il n'avait pas vraiment perçu, c'est que oui, il fallait quelque chose de puissant, mais il fallait surtout quelque chose qui dure. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ça doit durer des milliards d'années. C'est-à-dire que les puits et les sources dont je vous parle, ils doivent pouvoir s'équilibrer pendant des milliards d'années, le temps que le soleil monte en puissance. Et malheureusement, l'ammoniac, en montant dans l'atmosphère, subit les foudres du rayonnement solaire. Et donc, on a un puits très fort, alors que la source ne suit pas. Donc, on ne peut pas, comme ça, avoir du méthane équilibré à haute teneur dans l'atmosphère terrestre. C'est pas possible, l'ammoniac, ça ne marche pas. Donc, malgré que c'était un très bon gaz à effet de serre, cette hypothèse de Sagan a été rejetée. En fait, celles qui sont restées, c'est certainement le CO2 et peut-être le méthane. Et donc, tout ça pour vous dire que les premiers milliards d'années, on a une Terre chaude.
Et alors, par quel mécanisme l'oxygène a-t-il fini par apparaître il y a, vous dites, entre 2,2 et 2,4 milliards d'années?
Alors, c'est un mécanisme extrêmement lent, c'est-à-dire que l'oxygène se forme à bas bruit et il oxyde les fonds marins jusqu'à ce que l'oxydation soit telle qu'il puisse percoler dans la colonne d'eau elle-même. Et ça, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et entre 2,4...
Donc ça commence par les océans.
Alors, ça commence surtout par la croûte terrestre sous-marine. Puisque toute la planète... Et ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et ensuite, une fois que
c'est fait... En fait, l'oxygène va coloniser les océans, c'est ça?
Et une fois que c'est fait, que l'oxydation de la croûte est faite, alors à ce moment-là, l'oxygène produit peut aller dans la colonne d'eau. Donc il commence par coloniser la colonne d'eau, puis l'atmosphère. Et ça, ça se passe entre 2,4 et 2,2 milliards d'années. Et on a plein d'indices qui montrent qu'effectivement, les premières traces tangibles d'oxygène sur Terre datent de cette période. Et vous pourriez me dire, très bien, mais tout ça, ça peut changer la biologie, évidemment, puisque l'oxygène fait son irruption. C'est sans doute biologiquement la plus grande révolution, mais climatiquement, aucun effet. Pourquoi ? Parce que l'azote ou l'oxygène sont des gaz biatomiques qui ne sont pas des gaz à effet de serre. Donc pourquoi l'oxygène viendrait modifier le climat ? Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le CO2 et le méthane ont régulé la température à la surface du globe les premiers milliards d'années, ça je l'ai bien dit, à des températures chaudes. Et donc, le point, c'est qu'on ne voit pas de glaciation. Les premières glaciations terrestres, la première glaciation terrestre, elle apparaît grosso modo, importante, elle apparaît autour de ce qu'on appelle le grand événement d'oxydation, c'est-à-dire le moment où l'oxygène va faire son apparition sur Terre. Or, pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est la corrélation ?
Comme si l'oxygène avait changé le climat, du coup.
Comme si l'oxygène, dont on sait pertinemment qu'il n'a pas les moyens de le faire, radiativement, aurait eu une influence sur le climat. Alors, il faut imaginer que si le CO2 et le méthane ont, pendant des milliards d'années, garanti une température chaude, c'est un peu comme les deux réacteurs d'un avion, quoi. S'il y en a un qui, pour une raison ou pour une autre, s'effondre, évidemment, c'est la catastrophe froide. Alors, il y a une raison, je l'ai dit un peu tout à l'heure, pour laquelle l'oxygène va provoquer une catastrophe froide. C'est que quand l'oxygène va apparaître, l'oxygène est un poison mortel, même à basse teneur, pour les arcs méthanogènes. Elles vont disparaître. Elles vont se réfugier dans des zones anoxiques. Les arcs méthanogènes, aujourd'hui, elles existent toujours. Elles sont toujours dans des zones anoxiques, puisque pour eux, l'oxygène est un poison, elles se réfugient dans des zones où il n'y a pas du tout d'oxygène.
C'est quoi les zones anoxiques aujourd'hui, sans oxygène ?
Où il y a très peu d'oxygène, c'est par exemple des zones qui produisent du méthane, c'est des rizières, des endroits où il y a extrêmement peu d'oxygène, de fonds de rizières, des endroits très très éloignés de l'oxygène, à la fois sur le continent et sur... C'est des zones, presque des réservoirs, il n'y a plus beaucoup d'endroits comme ça. Mais elles sont là, elles sont tapies, un peu comme des bactéries, et quand l'environnement changera, elles pourront revenir. Mais pour l'instant, elles sont devenues ce qu'étaient les cyanobactéries avant le grand événement d'oxydation. Les cyanobactéries étaient des parias. Et après l'événement d'oxydation, elles sont devenues majoritaires. C'est exactement l'inverse qui s'est passé pour les arcs méthanogènes. Donc les arcs méthanogènes se sont repliés, à ce moment-là, dans le fond des océans, dans les zones pas trop oxydées, où elles pouvaient survivre. Et elles ont lâché la surface des océans. Et donc, il y a eu une très très nette diminution du méthane. Une très nette diminution du méthane. Il faut savoir que le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2, que le dioxyde de carbone. Alors là, il y a eu un accident grave du climat qui s'est traduit par la première grande glaciation qu'on appelle...
Parce que moins de
gaz à effet de serre. En fait, du point de vue physique, c'est assez facile. Vous avez la Terre qui est là et vous avez son atmosphère. Et dans son atmosphère, vous avez des gaz traces. Hein, c'est pas les gaz les plus importants. Les gaz les plus importants, c'est le N2 et le O2, qui vont... on pourra en reparler, qui vont avoir un effet radiatif très important. Et on peut très très facilement calculer cet effet radiatif, c'est juste de la physique. Et cet effet radiatif, il est très important pour l'ammoniac, moins important mais important pour le méthane, et aussi pour le CO2, et encore moins important, mais non négligeable, pour l'eau. Donc, une fois que le méthane s'écroule, on peut calculer ce que ça va donner à la surface terrestre en termes de température. Eh bien là, il y a une glaciation, une première glaciation majeure. Et c'est la première glaciation majeure qu'on voit en effet. On est à 2,4 milliards d'années. On connaît à peu près la distribution des continents, pas très bien. On connaît à peu près la composition de l'atmosphère. On sait à peu près comment ça s'est passé. On sait ce qu'il faut lâcher comme gaz à effet de serre pour produire la première glaciation. Et surtout, on voit ce qu'on appelle les tillites, c'est-à-dire des preuves de grosses calottes de glace sur la Terre pour la première fois sur les continents.
Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, Gilles Rammstein, que l'oxygène en tant que gaz n'a pas d'effet sur le climat, mais que son apparition indirectement a conduit à une modification drastique du climat.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que en fait, l'oxygène a évidemment bouleversé la biologie, hein, ça c'est certain. Mais en plus, cette biologie a assisté à un changement d'environnement assez important, mais réversible. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde chaud, qu'on connaissait depuis quasiment le début de la Terre, alors il y a eu plus chaud ou moins chaud, mais chaud, à une première phase glaciaire.
Et donc ça, c'est 2,4 milliards d'années dans le passé,
c'est
à peu
ça, près. C'est ça, c'est la première glaciation. Donc en fait, il faut voir la Terre jeune comme, contrairement à son Soleil qui est plus blafard, comme un monde chaud. Un monde chaud où finalement, la glaciation est un accident. Mais aujourd'hui, nous les hommes, on voit les calottes de glace antarctiques et groenlandaises, on voit ce qui reste des glaciers alpins, on a le sentiment que la cryosphère est un élément inhérent à la Terre.
La cryosphère, c'est...
C'est l'ensemble de tout ce qui est glacé. C'est-à-dire à la fois la banquise, les glaciers alpins, mais aussi les calottes de glace. Le monde glaciaire, quoi, si vous voulez. Et ce monde-là, il nous appartient, c'est le nôtre. J'y reviendrai sans doute, mais c'est quelque chose qui est en nous. On n'imagine pas une Terre sans glace. Et pourtant, l'état normal de la Terre, la plupart du temps, 90% du temps, est une Terre sans glace.
Oui, mais c'était une période où on n'était pas là.
Oui, mais par exemple, si vous pouviez aujourd'hui, à conversation scientifique, interroger un maximum de dinosaures, ils vous diraient que...
Il n'y a pas la place.
Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps non plus. Ils vous diraient qu'entre 250 et 65 millions d'années, les dinosaures c'est bien plus long que nous, hein, ils n'ont quasiment pas vu l'ombre d'une calotte de glace. Au Jurassique, au Trias, il faisait chaud. Au Crétacé aussi, il faisait chaud. Parce que pour qu'il y ait des calottes de glace, il faut à la fois des terres en position polaire pour les supporter, et il faut un bas niveau de CO2, un bas niveau de gaz à effet de serre pour permettre à la calotte de se construire.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Gérard Michel, votre livre s'appelle Voyage à travers les climats de la Terre, c'est un voyage dans le temps. Mais est-ce que c'est aussi un voyage dans l'espace, au sens où vous avez beaucoup parlé d'autres planètes ou de satellites de planètes? Est-ce qu'en apprenant comment sont les climats des autres planètes, on a des informations sur ce qu'a été le climat de la Terre? Est-ce que c'est une mine d'informations pour vous? Alors... ou est-ce que tous les climats sont en quelque sorte indépendants?
Je vais vous donner un exemple auquel on ne pense jamais, qui est vraiment marrant, qui a à voir avec la vie, mais qui a aussi à voir avec le climat. Qu'est-ce qui différencie finalement, fondamentalement, Mars et la Terre, pour vous?
Question
rouge, hein, c'est un peu difficile.
La
mais quand je vous le dirais, ouais, la couleur, ouais. Mais imaginez que vous
la
êtes...
La gravité, elle est trois fois plus aussi. Sur Mars.
Il y a une autre raison encore plus évidente. Vous arrivez sur Mars et vous arrivez sur la Terre. Quelle est la grosse différence?
L'eau?
Non. Non, non, une différence géologique, pas une différence... Enfin oui, d'accord. Non, la grosse différence géologique, mais personne n'y pense. C'est que vous arrivez sur la Terre, vous voyez son immense compagnon qui est la Lune. Vous arrivez sur Mars, vous voyez deux petits cailloux ridicules. Ok, pourquoi? Pourquoi c'est important? Ben parce que un très bon astrophysicien qui s'appelle Lascar a montré que, en fait, la Lune joue un rôle très important sur la régulation de l'obliquité terrestre. Et l'obliquité terrestre joue un rôle très important sur
l'obliquité,
le climat.
C'est-à-dire l'inclinaison
de l'axe d'épaule par rapport au plan dans lequel se meut notre planète. Donc c'est d'ailleurs en grec ce mot-là, cette
inclinaison. Je ne suis pas sûr que ce soit la première chose qu'on remarque quand on arrive sur Mars. Hein.
Ah non, sur Mars, non. Si on arrive sur Mars. Et qu'en même temps, sur un autre écran, on arrive sur Terre.
Je suis pas sûr que ce soit la première chose.
La Lune, on voit la Lune. En tout cas, la Lune est vraiment quelque chose d'important pour nous, même dans notre climat. C'est ça que je veux dire. Sur Mars, c'est pas le cas. Et quelles conséquences climatiques ça a? Mars n'a pas de régulateur d'obliquité comme la Lune l'est. Elle a deux petits cailloux qui ne jouent qu'un rôle complètement dérisoire. Et du coup, on peut montrer que l'obliquité sur Mars a beaucoup bougé. Alors que sur Terre, l'obliquité est dans une petite fenêtre. Et ça donne tout de suite une touche très différente, non seulement au climat, mais à l'évolution climatique des planètes. Bon, et Vénus, c'est encore une autre histoire. Non, non, ce qui est intéressant, à mon avis, ça, c'est très rapidement des histoires très différentes. Par contre, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que si la vie est évanescente sur une planète, et si on recherche la vie, on va avoir du mal. Et nous, on ne sait rien de tout ça. Tout ce qu'on sait sur notre planète vivante, la Terre, depuis presque 4 milliards d'années, il y a de la vie. Elle n'est pas évanescente. Évidemment, il y a eu des grandes extinctions, il y a eu plein de choses. Mais il y a eu toujours de la vie. Et donc, pour un physicien, ça veut dire qu'il y a toujours eu des conditions climatiques permettant la vie. Et ça, c'est un peu ce qui m'a motivé dans ce livre. Parce qu'il y a un physicien, un biologiste, qui s'appelle Lovelock. Maintenant, on a un peu oublié ce gars, mais qui avait cette hypothèse de Gaïa, d'une planète vivante, d'une planète qui se défendait elle-même contre les agressions dont elle pouvait être victime.
Ce qu'on appelle une planète vivante, dans votre vocabulaire, c'est une planète qui contient de la vie,
voilà.
Qui accueille de la vie.
Non, c'était plus que ça dans l'idée de Lovelock. C'était comme un être vivant. La Terre était un être vivant qui se défendait contre les perturbations qu'elle pouvait engendrer ou qu'on pouvait lui procurer. Et cette idée a eu pas mal de succès dans les années 60, surtout chez les biologistes, beaucoup, beaucoup moins chez les physiciens. Et moi, comme physicien, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui doit être vrai là-dedans, c'est que puisque la vie a perduré pendant si longtemps, c'est qu'il a fallu trouver, il faut trouver des mécanismes qui sont sous-jacents aux variations climatiques, avec des rétroactions telles que l'eau et la température, c'est-à-dire les deux grands piliers, restent toujours dans un domaine qui est compatible avec la vie. Et alors, en effet, il y a un grand accident qu'on appelle la glaciation néoprotérozoïque, qui est relativement proche de nous, il y a 800 millions d'années, où la Terre s'est complètement englacée. Et ça, c'est une histoire très intéressante. Parce que, d'abord, beaucoup de climatologues ne voulaient pas croire que c'était le cas, et aussi, ça prouve aussi, si vous voulez, dans mon histoire personnelle, j'ai beaucoup travaillé en pluridisciplinarité, c'est-à-dire avec beaucoup de gens. Comme j'ai expliqué au début, pour moi, les contacts, les échanges, le fait de science, d'avoir des échanges avec des scientifiques différents qui ont une approche différente, ça va vous permettre souvent de solutionner pas mal de problèmes que tout seul, vous ne pouvez pas. Et cette histoire montre bien que c'est ça qu'il faut faire. Il y avait un géologue américain qui s'appelait Harland, qui en 1960 a été capable de montrer avec certitude qu'au néoprotérozoïque, il y a 600 à 800 millions d'années, il y avait des calottes de glace, pas des petits glaciers, des calottes de glace à l'équateur.
À l'équateur.
Bon, à l'équateur, c'est impossible. S'il y avait des calottes de glace à l'équateur, je passe sur certaines histoires, mais c'est que la Terre était complètement glacée. Donc, lui, il était géologue. Donc, il est allé voir dans les années 60-80, il a demandé des avis à des climatologues, des modélisateurs comme moi. Vous imaginez comment c'était à l'époque, il y avait l'Est et l'Ouest. Donc, il a été demandé à un modélisateur de l'Ouest, qui s'appelait Sellers, et un modélisateur de l'Est, qui s'appelait Boudicault, qui étaient des sommités en climat. Et les deux lui ont dit, mais mon petit monsieur, ça se saurait s'il y avait une Terre englacée il y a 600 millions d'années, parce que pour sortir de ça, il faut booster le Soleil, et comme je l'ai expliqué, c'est 7% par milliard d'années, il faudra attendre plusieurs milliards d'années, donc si la Terre avait été englacée il y a 800 millions d'années, on le saurait, on serait encore dedans.
Oui, on ne serait pas là.
On ne serait pas là. Et ça, c'était imparable. C'était vraiment mathématique.
On ne peut montrer. Pas sortir de l'englacement avec un soleil voilà. Qui augmente son intensité
voilà.
Au cours du temps.
Voilà. On peut pas sortir. On peut, mais ça prend énormément de temps. Et donc, Boudicault, malgré toutes les preuves qu'il avait, toutes les preuves géologiques, sur ses arguments physiques absolument imparables, eh ben, il a rentré ses données. Et puis, on a un peu oublié cette histoire de Terre boule de neige. Mais en fait, évidemment, on ne triche pas avec la vérité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Un certain nombre de physiciens, je ne peux pas l'expliquer ici parce que c'est long, mais on a commencé à avoir énormément de preuves que cette période du néoprotérozoïque est extrêmement bizarre et qu'elle avait beaucoup de caractéristiques qui n'étaient pas du tout celles de notre climat. Et il y a 30 ans après, un autre Américain qui s'appelle Kirchling a dit « Mais vous savez, si la Terre s'est complètement englacée, pendant ce temps-là, la tectonique des plaques continue, l'émission de CO2 par le volcan continue. Et quand la Terre est complètement englacée, contrairement à nous, eh bien, le CO2 émis, il se stocke dans l'atmosphère, simplement. Il n'interagit plus avec la biosphère ou avec les océans, puisque les océans sont couverts de neige, de glace, et que la Terre est couverte de calottes de glace. Donc, il se stocke simplement dans l'atmosphère
c'est ça qui permet de sortir
pendant des millions d'années. Et un calcul montre que ça suffit largement, qu'il ne faut plus attendre des milliards, mais des millions d'années, et que c'est la débâcle, et que la débâcle, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur.
Des volcans.
Ce qui prouve le rôle complètement extraordinaire qu'a joué le CO2 au cours de toute notre histoire. À la fois pour déglacer, pour protéger. Le CO2 est quelque chose qui est très très intimement lié au climat. Alors aujourd'hui, on va parler du
climat voilà. D'aujourd'hui et de la COP21 et de ce que l'homme fait au climat depuis quelque temps. Mais avant d'en parler, je voulais vous poser une question sur les montagnes. Vous parlez dans votre livre, Gilles Rammstein, de la surrection. La surrection, qu'est-ce qu'on dit ?
Surrection.
La surrection des montagnes, c'est un terme que je ne connaissais pas. C'est l'élévation en altitude des roches qui constituent les montagnes. Depuis quand y a-t-il des montagnes ? Vous avez dit que les continents sont apparus il y a 3 milliards d'années. Les montagnes, c'est quand ? Depuis quand peut-on faire de l'alpinisme ?
C'est une excellente question, mais les montagnes, elles sont un peu inhérentes à la tectonique. Quand deux plaques vont se collisionner, hein, comme c'est le cas quand la plaque indienne a tapé contre l'Asie, c'est ces forces-là qui ont donné
l'Himalaya,
le plateau tibétain. Donc ces forces-là, dans l'histoire, à des rythmes, à une fréquence avec de 500 millions d'années à peu près, les plaques passent leur temps à se séparer et à se regrouper. Et donc il y a eu un supercontinent Pangée, avant il y a eu un supercontinent Rodinia, et ça c'est l'histoire de notre petite planète, c'est ça. Et cette histoire-là, elle va avec les montagnes, qui vont avec. Donc depuis qu'il y a de la tectonique, il y a des montagnes. Par contre, ce qui est très, très embêtant pour nous, modélisateurs, c'est qu'on sait beaucoup de choses. On sait par exemple, grâce au paléomagnétisme en particulier, on sait reproduire la distribution continent-océan. Hein. Si nous, modélisateurs, on n'a pas de continent-océan de distribution, on ne sait pas comment c'est fait, quoi. On ne peut rien dire sur la circulation des fluides. Donc il faut qu'on ait cette donnée. Mais aussi, il faut qu'on ait la donnée des montagnes. Et ça, c'est très difficile à restituer la hauteur de montagnes qui ont disparu. Très difficile. Mais on sait, par exemple, que, si vous voulez, la Terre, notre Terre, elle était beaucoup plus plate à l'Éocène, c'est-à-dire il y a 50 millions d'années. Pourquoi ? Parce que il n'y avait pas de... La collision Inde-Asie a donné le Tibet, l'Himalaya. Ça date à peu près de la naissance de ces reliefs. C'est à peu près 40-50 millions d'années. Les Andes, c'est très récent, quelques millions d'années. Les Rocheuses aussi, la fin des Rocheuses, c'est très récent, quelques dizaines de millions d'années. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de montagnes, d'énormes... Il y a des moments dans l'histoire de la Terre où il y a moins de chaînes de montagnes que dans d'autres moments. Et du point de vue du climat, évidemment, ça a une importance.
Est-ce que vous arrivez toujours à faire la part des choses entre ce qui relève de l'effet et ce qui relève de la cause ? On sait que c'est pas parce qu'on voit des grenouilles sortir après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu les grenouilles.
Ouais, mais alors là, ça c'est l'énorme avantage de la modélisation, c'est que les grenouilles, on fait pas des grenouilles, on fait des modèles. Et avec les modèles, on peut tester ce que nous on appelle dans notre jargon la sensibilité. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, à cette époque du passé, il y a une glaciation globale. Pourquoi ? Alors vous pouvez dire, je pense que c'est à cause du soleil qui était un peu plus jeune. Vous testez, vous voyez que non, c'est dérisoire. Alors vous pouvez dire, je pense que c'est à cause du CO2 qui s'est effondré. Ah oui, c'est possible que ce soit CO2 qui s'est effondré. Mais pourquoi ? Et comme ça, vous allez enquêter. Vous allez enquêter, c'est-à-dire que vous allez tester différentes causes, voir les causes qui paraissent quantitativement les plus plausibles, et ensuite vous allez regarder si ces causes qui quantitativement rendent bien compte des gros phénomènes sont cohérentes avec toutes les données dont on dispose par ailleurs. Et si par exemple il vous faut... Ça marche le soleil pour déglacer, mais il vous faut 4 milliards d'années. Ben, c'est bien clair que, d'accord, ça marche, mais c'est pas le bon tempo. Et par contre, le gaz, le CO2, le volcanisme, c'est le bon tempo. Et en fait, la Terre, c'est une valse à 3 temps. C'est le tempo du soleil, dont on a pas mal parlé, hein, qui grossit de 7% par milliard d'années.
C'est le tempo de la Terre. C'est pas lui qui grossit, c'est son intensité.
Oui, excuse-moi. Dont l'intensité augmente de 7% par milliard d'années. Ensuite, à plus haute fréquence, c'est le tempo de la tectonique des plaques. Donc, si vous regardez deux images de la Terre à 10 millions d'écarts d'années, vous commencez à voir que ça va changer la circulation atmosphérique, ça va changer la circulation océanique, les bassins vont avoir une forme différente, il va y avoir différents détroits, tout ça. Donc ça, c'est le tempo de 10 millions d'années, c'est la tectonique des plaques. Et après, vous avez encore un autre tempo qui est que les paramètres orbitaux, c'est-à-dire l'excentricité de notre petite planète, son obliquité, la précession des équinoxes, changent à des échelles de dizaines de milliers d'années encore plus vite. Ça, c'est le troisième tempo.
Il y a 3 tempos qui s'enchevêtrent,
voilà,
donc.
Il y a 3 tempos qui s'enchevêtrent.
Est-ce que vous en savez assez sur cette histoire pour imaginer faire un film en accéléré qui montrerait comment la Terre a changé d'apparence, de couleur, de climat entre il y a 3,8 milliards d'années aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des blancs ou est-ce qu'on peut tout raconter?
On pourrait faire un premier film, Gaïa Zéro, et je pense que dans 100 ans, il y aura encore des gens pour améliorer Gaïa Zéro quand on sera Gaïa 99. Parce que, comme je disais, on sait beaucoup de choses, mais c'est quand même très pointilliste. Et puis, il faut se rendre compte des durées, c'est énorme, des milliards d'années. Donc, vous devenez de plus en plus myope au fur et à mesure que vous vous éloignez de nos bases. Hein, c'est ce que je disais, alors que sur les derniers 100 000 ans, on a énormément de choses. Mais on peut quand même, d'ailleurs c'est l'objet de mon livre, on peut quand même raconter une histoire de la Terre. Parce que, d'accord, on perd un peu tous les détails. C'est un peu comme quand vous vous éloignez d'un visage, vous perdez un peu les détails des traits du visage, mais vous avez une idée de la silhouette. Et donc, on garde les gros événements du passé et on perd certainement beaucoup de choses de l'ordre du détail qu'on peut par contre avoir sur les climats actuels.
Gilles Rubinstein, il faut quand même qu'on parle du présent. C'est la COP21 en ce moment à Paris. Quand est-ce qu'a démarré la pression anthropique? C'est-à-dire, depuis quand est-ce que l'homme agit sur le climat?
Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mais en fait, on pense maintenant que vraiment la marque importante de l'homme sur le climat, ça remonte quand même grosso modo aux révolutions industrielles. Il y a eu des auteurs, en particulier Rudiman, qui ont voulu montrer que ça datait de plus longtemps, de près de 6000 ans. Voilà. Oui. Mais bon, pour la partie méthane, c'est peut-être vrai. Pour la partie CO2, c'est beaucoup moins clair. Mais en tout cas, ce qui est massif, c'est depuis les révolutions
industrielles. C'est extrêmement récent par rapport aux échelles de temps que vous avez indiquées pendant toute l'émission.
C'est pour ça que...
Le climat a beaucoup changé, vous l'avez expliqué. Il va beaucoup changer. Qu'est-ce qui est original dans cette situation? C'est pas les variations de température, c'est la vitesse à laquelle ça change.
Ouais, c'est ça. En fait, le quatrième temps de la valse, c'est-à-dire le temps un peu strange, c'est le temps de l'homme. L'homme, il change le climat en quelques siècles, alors que la nature le fait en milliards, en dizaines de millions et en dizaines de milliers d'années, comme je l'ai un peu indiqué. Mais l'homme, lui, change. Et ce qui fait de notre... La Terre s'en remettra de l'homme, hein, sans aucun problème. Elle a 4,6 milliards d'années, il lui reste largement autant à faire, pas de souci.
Le problème c'est de... pas la Terre le souci.
Voilà, c'est pas la Terre le souci. Sauver le climat, en fait, c'est pas sauver, c'est sauver l'homme. L'homme est en train, à une vitesse fulgurante, c'est la vitesse qui est importante, de changer son environnement. Alors pourquoi c'est la vitesse et pas tellement le taux? Bon, aujourd'hui, on est à 402 ppm de CO2 dans l'atmosphère.
Ppm, c'est parties par million.
Voilà, 402 parties par million de CO2. Mais le CO2, c'est un gaz radiatif, bien qu'étant un gaz à effet de trace, qui est là à 402 parties par million, il a quand même un effet radiatif très important. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas la valeur absolue. Parce que si on se regarde dans l'histoire de la Terre, quand est-ce qu'on a déjà eu 402? Il y a plein de fois, on a eu bien plus que 402, c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'on va être 9 milliards d'hommes, qu'on est 7 milliards d'hommes, et qu'on est en train de le faire en quelques centaines d'années. Et pourquoi c'est potentiellement grave? Alors c'est potentiellement grave parce que l'homme, quand est-ce qu'il apparaît? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il apparaît pas dans un monde chaud comme celui des dinosaures. Depuis 40 millions d'années, le CO2 baisse. Le CO2 baisse depuis 40 millions d'années de environ 1000 ppm il y a 40 millions d'années jusqu'à 200, 300 ppm comme avant que l'homme perturbe le climat. Donc il a perdu 700 ppm en 40 millions d'années de façon pas vraiment continue ni linéaire, mais en gros il y a une tendance à la baisse très marquée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 millions d'années? Eh ben, on a vu ressurgir un truc qu'on n'avait pas vu depuis 300 millions d'années, des calottes de glace. L'Antarctique d'abord, il y a 34 millions d'années, puis le Groenland récemment, il y a 3 millions d'années. Et si on considère que l'ancêtre de l'homme est par exemple Toumaï, il y a 7 millions d'années, eh ben l'homme vit dans un monde froid. L'homme vit dans un monde froid avec des calottes de glace dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Ça, c'est exceptionnel dans l'histoire de la Terre. C'est très rare. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros continent antarctique en position polaire. Il y a une plaque en position subpolaire qui est le Groenland, qui est une assez grosse surface. Et puis, chose qu'on ne sait pas forcément, on est dans un monde à deux calottes aujourd'hui. Mais c'est un monde, à l'échelle du dernier million d'années, qui est extrêmement marginal. Le monde le plus présent, 80% du temps, c'est un monde à quatre calottes de glace, avec une calotte de glace sur l'Amérique du Nord et sur la Scandinavie. Ce qui fait qu'on vit vraiment dans un monde froid à très froid. Donc là, on est dans une phase plus froide, et il y a des phases beaucoup plus froides qui sont les glaciers. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend tout le combustible fossile qu'on peut, qui était là, tranquille, sous terre, et on le met dans un autre compartiment qui est l'atmosphère. Tout ça ne serait pas grave s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre. Mais le fait qu'on brûle ce combustible fossile monte le gaz à effet de serre. Donc on change le climat dans un monde froid, et quand on change le climat dans un monde froid, qu'est-ce qu'on fait? On fait fondre les calottes de glace. Comme je vous dis, les calottes de glace, c'est pas quelque chose de très fréquent. Donc à terme, une chose qui va radicalement changer, c'est ça.
C'est alors que à quel terme? Pour la première fois de son histoire, ne verra plus de glace.
Je ne sais pas si... Ah, il est possible que ça arrive, ça. Mais on peut se dire, d'accord, mais aujourd'hui, on est à 402 ppm. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, on peut se dire, je vais regarder dans l'histoire de la Terre, quand est-ce qu'on a déjà été à 402? Et c'est ça qui est extraordinaire dans les découvertes récentes de Lorius, de Jouzel et d'autres, c'est d'avoir montré... Claude Lorius, Jean Jouzel. C'est d'avoir montré que... Enfin, et d'autres, hein, plein d'autres. Hein, et d'avoir montré que dans les glaces, on a des bulles. Ces bulles nous permettent de remonter sur la composition atmosphérique des derniers 800 000 ans, grâce au fait que l'Antarctique est un vrai désert et que ça accumule très peu. Et donc, on peut remonter dans le temps jusqu'à 800 000 ans et peut-être un jour jusqu'à 1 million.
Comment ils ont eu cette idée d'ailleurs d'aller regarder ce qu'il y a dans les bulles coincées dans la glace de l'Antarctique?
Ah ben ça, est-ce que c'est pris sur mon temps de parole? Parce que sinon, un excellent film pour voir ça, parce que c'est extraordinaire, c'est d'aller voir la glace et le ciel. Parce que dans ce film,
vous
voyez
comment... Il n'y a pas une
histoire
de glaçon dans un whisky, voilà, dans un verre de whisky? Voilà.
Lorius l'explique, et il explique une chose qui m'a paru presque une fable. C'est-à-dire que c'est en entendant les craques et le bruit des bulles dans un verre de whisky qu'ils se sont dit que toute la glace qu'ils avaient là...
Ils contenait, étaient déjà sur place.
Voilà, hein. contenait du gaz, et que ce gaz était, recelait la composition atmosphérique de l'atmosphère passée. Mais ce film raconte tout
quand
ça...
Quand même le faire mettre des glaçons dans son whisky alors qu'on est dans l'Antarctique.
À mon avis, il faut se rendre compte que... Bah ça aussi, c'est très bien expliqué. Il faut se rendre compte que ce que c'est d'aller sur la base Charcot, c'est un espèce de terrier où on met 3 semaines à aller en caillant de froid. C'est vraiment extraordinaire, cette conquête de l'Antarctique et cette conquête scientifique de l'Antarctique. Et c'est très, très bien expliqué dans ce film. Donc moi, malheureusement, il ne joue déjà plus beaucoup, mais je vous conseille d'aller le voir. Mais pour revenir à ce qu'on disait, on peut avoir une très bonne description depuis presque 1 million d'années. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que quand il fait froid, le CO2 est à 180 ppm. Et quand il fait chaud, le CO2 est à 280 ppm. Et ça, c'est l'histoire du CO2 sur 1 million d'années. Et nous, les hommes, et ça, c'est indiscutable, c'est mesurable, c'est des faits, des données. Et nous, les hommes, on a perturbé ce cycle qui n'est pas millénaire, qui est des centaines de milliers d'années, presque 1 million d'années. On a complètement perturbé, on a explosé cette petite fenêtre, glaciaire-interglaciaire, et on est aujourd'hui à 402. Alors, il va falloir remonter sur plus d'un milliard d'années. Jusqu'où faut remonter? Il faut remonter jusqu'à à peu près 3 milliards d'années. Là, on pense qu'on avait à peu près 400 ppm. Très bien. Quel était l'état de la surface terrestre il y a 3 milliards d'années? Il n'y avait quasiment pas de Groenland. Le monde était chaud. Le niveau marin était 10 mètres de plus qu'aujourd'hui. Donc, l'histoire et le climat ne repassent jamais les plats. Mais il est certain que le niveau auquel vous allez arriver, du point de vue climat à l'équilibre, puisque là, il s'agit d'un climat à l'équilibre il y a 3 millions d'années, c'est un climat où la cryosphère est largement, largement altérée, puisque le niveau des mers est au moins de 10 mètres supérieur aujourd'hui. Donc, ça, c'est une chose importante. On aurait été au moment des dinosaures, on aurait fait la même chose. Brûler du combustible fossile, on n'aurait pas forcément eu un changement de niveau marin. Mais nous, les hommes, on vit dans ce monde-là, dans un monde froid, avec des calottes de glace, sans compter plein d'autres choses qu'on est en train de modifier à des échelles de temps plus courtes.
Est-ce que vous pensez, Jérôme Chain, que la situation est rattrapable? C'est-à-dire, comment pourrions-nous, globalement, réduire massivement les combustions de combustibles fossiles sans radicalement changer les modes de vie?
Il n'y a pas de baguette magique, c'est-à-dire que je pense qu'il faut des accords, comme ceux qui sont négociés à la COP21. Comme vous savez, ces accords sont maintenant basés sur des promesses, c'est-à-dire que chaque pays, sur les 195 pays, plus de 150 ont rempli leurs vœux, leurs promesses.
Leurs engagements.
Leurs engagements, enfin, oui, c'est des promesses. Hein, bon. S'il n'y a pas d'engagement contraignant, ce qui sera peut-être le cas, c'est pas grave. C'est pas grave si la somme des engagements est inférieure à ce vers quoi on veut aller. Mais c'est pas le cas. La somme des engagements, elle conduit à un monde d'à peu près 3 degrés, alors que nous, on souhaite plutôt...
3 degrés dans un siècle,
voilà.
En plus.
Voilà. Et donc, ça veut dire que... ça, c'est les engagements, c'est les promesses. Donc, voilà, il va falloir peut-être songer à savoir ce qu'on va faire de ces promesses. Bon, c'est déjà une bonne chose. Tous les pays, ou la plupart d'entre eux, ont rempli, ont se sont engagés, donc ça, c'est une bonne chose. Mais après, comment on va y arriver? Voilà. Une chose qui serait catastrophique, c'est que la COP21 va forcément conduire à un accord qui sera ni extraordinairement bon, ni extraordinairement mauvais. Je pense qu'il sera entre les deux, avec des bonnes choses et des mauvaises choses, avec des avancées et des reculs. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de changement de cette envergure planétaire, mondiale, parce que c'est un des premiers vrais problèmes complètement mondiaux, sans prise de conscience citoyenne. C'est-à-dire que aussi les gens doivent penser qu'il est temps de changer leur mode de vie. Et ceux qui sont, à mon avis, le plus près du gouffre, d'une certaine façon, ceux qui ont déjà beaucoup contribué à là où on en est, hein, parce que sur les 2 degrés, il y en a 0,8 qui sont quasiment pris, et c'est par les pays développés. Donc ça va aussi avec un effort, je pense, citoyen, de balancer l'effort de façon à ce que les gens qui ont déjà bien profité
fassent le plus d'efforts.
Et qui sont le plus à même de s'adapter, fassent le plus d'efforts, certainement.
Donc ça concerne donc essentiellement l'Europe et les États-Unis.
La question, si vous voulez, elle est là un peu. C'est, comme vous disiez, c'est est-ce que c'est rattrapable ? Rien n'est, à mon avis, jamais rattrapable. Et tout, et rien n'est non plus jamais, à mon avis, irréversible. Tout ça, c'est des échelles de temps. La question, c'est que si on roule à fond vers un mur, c'est pas parce qu'on bouge le mur d'un mètre que ça changera quelque chose. C'est vraiment parce qu'on arrête de rouler vers le mur. Donc la question, c'est celle-là. C'est est-ce qu'on va être capable de se rendre compte ? Et il y a un chapitre dans mon livre qui parle effectivement de ça, qui explique ce que c'est que la COP21, qui explique ce que c'est les efforts des scientifiques, parce que ça, le fait que d'avoir fait un énorme rapport qu'on appelle le rapport du GIEC, où les scientifiques disent voilà, donnent des pistes, donnent des cris d'alarme, explique pourquoi les choses risquent de changer et comment elles risquent de changer si on continue comme ça avec des scénarios pour le futur. Cet effort qui est énorme a été fait par les scientifiques. Maintenant, il faut que à la COP21, les politiques en tirent des conséquences. Mais au-delà de ça, je pense que l'homme, contrairement au dinosaure, il a un gros cerveau. Il a un énorme cerveau. Il est capable de mesurer par les satellites ce qu'il est en train de faire. Il a les moyens de faire bouger les choses. Et donc, en fait, toute la question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans ce bras de fer de notre intelligence ? Est-ce qu'on va dilapider jusqu'au bout ? Et il y a des exemples comme l'île de Pâques où ça s'est produit. Est-ce qu'on va dilapider jusqu'au bout en ayant une vision à court terme ? Ou est-ce que grâce, on va utiliser notre gros cerveau à faire autre chose que dilapider et plutôt se mettre en mesure d'affronter les enjeux auxquels on est déjà confronté. C'est ça, à mon avis, tout le côté un peu affolant, mais aussi excitant, parce que servir de son intelligence, c'est excitant, de ces 50 prochaines années où beaucoup de choses vont se jouer, je pense. En effet, rien n'est irréversible, mais si effectivement certains lobbies arrivent à mettre le doute, hein, comme c'est sur plein de choses. Hein. Dans des cas comme l'amiante, le tabac, il y a une universitaire qui s'appelle Noémie Doresques qui a publié un livre qui montre comment des gens ont pendant des dizaines d'années mis le doute dans ce que disaient les scientifiques en disant, je schématise, ils vous disent que c'est vrai, mais nous on connaît les scientifiques qui disent que c'est pas forcément vrai, et donc les gens, voyant que c'est pas sûr, ne vont pas faire d'efforts. Donc si c'est la philosophie du doute qui réussit à l'emporter, c'est-à-dire
qui consiste à ne pas croire ce qu'on sait.
Voilà.
Vous avez parlé, Gilles Rammstein, d'échelle de temps très longue, plusieurs milliards d'années, mais l'émission, comme vous le savez, ne dure qu'une heure. Voilà, donc nous devons hélas prendre congé. Je vous remercie d'être venu. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madur, à la technique Ariane Herbet et à la réalisation François Connac.
La Terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, la terre est bleue comme une orange, les mots ne mentent pas. Il ne vous donne plus à chanter, autour des baisers nous s'entendent, la terre est bleue comme une orange, les mots ne mentent pas. La terre est bleue comme une orange, les mots ne mentent pas. La terre est bleue comme une orange, les mots ne mentent pas.